Bonjour chers auditeurs de RLP, vous avez un nouveau rendez-vous avec l'histoire du Périgord et des Périgourdins présenté par les membres de la Société historique et archéologique du Périgord. Bonjour chers auditeurs de RLP. Nous allons aujourd'hui rencontrer un monsieur extrêmement âgé et pour ce faire, j'ai invité deux témoins qui vont se présenter.
Bonjour, je m'appelle Brigitte Deluc, je suis préhistorienne, j'ai un docteur en préhistoire. J'ai créé il y a maintenant un certain nombre de décennies le musée de l'Abri Patau, osé ici. Et j'ai été pendant de nombreuses années secrétaire générale de la vénérable Société historique et archéologique du Périgord, dont je suis aujourd'hui vice-présidente.
Alors de mon côté, je m'appelle Gilles Deluc, je suis l'époux de la précédente, et d'autre part, je suis docteur en anthropologie et en préhistoire, et puis, il n'y a pas de sous-métier, j'étais précédemment médecin des hôpitaux. Et enfin, je suis président d'honneur de la Société historique et archéologique du Périgord, la vieille dame de la rue du Plantier.
Eh bien, merci. Après avoir évoqué la vieille dame, nous allons parler donc du très vieux monsieur, connu sous le nom de l'homme de Cro-Magnon.
Alors, l'homme de Cro-Magnon, tout le monde vous le dira en ces temps de fait libré, l'homme de Cro-Magnon, c'est l'homme du trou Magnon. Alors, ça tombe bien parce que vous avez dit, il y a un endroit, un abri sous roche, qui s'appelle le Cro-Magnon, et on pense tout de suite que l'homme de Cro-Magnon a été trouvé dans le Cro-Magnon. Manque de chance, le Cro-Magnon était connu depuis des siècles, alors que l'endroit où il a été trouvé, c'est juste au-dessous, un endroit qui était obturé, qui était rempli de sédiments, de pierres, de terre, depuis des millénaires. Et l'homme de Cro-Magnon a donc été trouvé au-dessous de l'abri Cro-Magnon. Mais le tout est compris aujourd'hui dans le musée de Cro-Magnon.
Et donc, on a évoqué la notion d'abri sous roche plutôt que de grotte. Qu'entend-on par abri sous roche? Est-ce que c'est un abri qui aurait été creusé par la Vézère, la rivière qui passe en dessous?
Il faut se remettre dans la situation de la Vézère aux Aisies. C'est une rivière qui se faufile entre des grands rochers. Ces grands rochers, ils ont été effectivement taillés par l'enfoncement de la rivière, mais au cours des millénaires, depuis 2 millions d'années à peu près, elle s'est enfoncée tout doucement, verticalement. Et ce n'est pas elle qui a creusé les abris. C'est l'érosion par le gel et le dégel. En effet, ce sont des périodes où le climat était beau, plus froid que le nôtre pendant les glaciations, et quand il pleuvait, l'eau entrait dans les fissures de la roche, et quand il gelait pendant l'hiver, la roche éclatait sous l'effet du gel, et petit à petit, les couches les plus tendres du rocher se sont creusées. Donc l'alignement horizontal des abris tient en fait au temps de la formation de cette roche, à l'époque plus lointaine qu'on appelle l'époque secondaire. C'était à une époque où il y avait de la mer qui couvrait notre région.
À cet endroit, on a découvert un homme préhistorique.
Alors cet endroit, ça est dans tous les livres, c'est là qu'on a trouvé l'homme de Cro-Magnon. Mais l'homme de Cro-Magnon, il était plusieurs. Il y avait un homme d'une quarantaine, cinquante ans environ, cinquantaine d'années, qu'on s'est empressé d'appeler le vieillard de Cro-Magnon, pas très gentil. Et puis l'homme de Cro-Magnon, c'était aussi une femme qui était là, c'était aussi dont on a des restes, c'était aussi un autre homme, dont on n'a pas grand-chose, et deux enfants. Et puis, dit-on, les gens qui ont creusé auraient trouvé d'autres humains, mais en tout cas, l'homme de Cro-Magnon, ils étaient environ 5. Mais le plus important, c'était bien sûr celui qu'on a appelé le vieillard de Cro-Magnon.
Ils étaient 5, et est-ce qu'on a une idée de savoir s'ils étaient de la même famille, de la même tribu?
Non, On n'a pas pu avoir d'examen d'ADN quand les ossements étaient trop vieux. Donc on pense très probablement que cet endroit, qui était un abri qui était presque totalement comblé, était possiblement la sépulture des gens qui habitaient à l'abri Pateau. Donc ils n'étaient pas de la même famille, mais ils nageaient à peu près dans le même ensemble.
La découverte de Cro-Magnon, pour beaucoup de gens, on dit que c'est lié aux travaux du chemin de fer. Qu'en est-il ?
Alors, ça c'est le côté teuf-teuf de la légende de Cro-Magnon. En réalité, il suffit de penser aux chiffres. C'est-à-dire que la gare, le chemin de fer Paris-Agen, a été inaugurée en août 1863. Par parenthèse, dans ce mois d'août de 63, c'est le moment où deux personnes sont arrivées découvrir les Ésies. C'était d'une part un savant qui s'appelait Éloire Larté, et le second était son commanditaire, qui était un fabricant de chapeaux, qui s'appelait Henri Christie. Donc Édouard Larté et Christie sont arrivés en août 63 par le chemin de fer. Et la grotte, l'abri plus exactement, de Cro-Magnon a été découvert en 68, donc 5 ans après, non pas bien sûr au moment des creusements pour la voie ferrée, mais au moment de creusement ou de l'amélioration du petit, d'un petit chemin, de la petite route qui passe à côté de la gare et qui s'appelle la route de Taillac, qui joint Taillac d'une part, l'église, et d'autre part les Ésies. Donc ce n'est pas une découverte ferroviaire, c'est une découverte routière.
Et on parle maintenant d'ailleurs des Ésies de Taillac. Et à l'époque, est-ce que c'était deux communes différentes ? Est-ce que c'était la même ?
Alors effectivement, l'homme de Cro-Magnon n'a pas été découvert aux Ésies, ça a été découvert à Taillac, puisque la commune s'appelait au début du XXe siècle Taillac, et ce n'est que vers 1905 que c'est devenu les Ésies de Taillac, et même les Ésies de Taillac-Sireuil.
Très bien. Donc nous allons revenir un peu sur cette découverte et sur les gens qui l'ont découverte et qui ont travaillé sur la datation un peu de cette découverte.
Édouard Larté, qui est donc arrivé en août 1953 et qui a découvert les Ésies, il l'a découvert parce que il avait observé dans la vitrine d'un antiquaire parisien un morceau de brèche qui venait d'une grotte, et dedans il y avait des ossements travaillés et des outils de silex travaillés.
Objection, votre honneur, et je vous prie de m'excuser, votre langue a fourché, et il est venu en 1863 et non pas 53.
Ce monsieur était très intéressé par l'origine de l'homme. Il faut bien savoir qu'à l'époque, on ne croyait pas, on n'imaginait pas que l'homme ait pu être très ancien et avoir une origine très ancienne. Édouard Larté avait découvert dans les Pyrénées des singes très anciens. Et l'idée remuait le monde savant. Et on associait les plus anciens hommes à leurs outils de silex. Donc comme il avait repéré des outils de silex provenant des Ésies, il arrive avec le premier train et il découvre les grands sites des Ésies comme la Madeleine, comme l'Augerie. Et il repart muni de toutes ses découvertes, bien sûr aidé par les paysans de la région. Donc son nom est connu aux Ésies. Et voilà que 5 ans après, pour faire une route, les ouvriers découvrent l'abri de Cro-Magnon qui jusque-là était complètement enfoui dans les sédiments. Les ouvriers découvrent un squelette. Première réaction, on va chercher Édouard Larté à Paris. Mais Édouard Larté est fatigué, il est âgé, et il envoie son fils qui est géologue. Et c'est donc Louis Larté qui vient travailler à Cro-Magnon. Et c'est le nom de Louis Larté qui va être lié à la connaissance de ce qui a été découvert. Et il fait de superbes publications telles qu'on n'en faisait pas du tout à l'époque. Donc on a des tas d'indications sur la façon dont ces squelettes ont été découverts.
Que peut-on dire de la période à laquelle ils remontent ?
Alors figurez-vous qu'on Louis Larté s'aperçoit que l'abri sous lequel étaient ces squelettes avait été habité pendant de très nombreuses reprises et très longtemps avant, parce qu'on a retrouvé des tas de campements, si vous voulez, avec des restes de foyers, des outils et des pièces osseuses. Et cette période-là est appelée aujourd'hui, mais était déjà bien déterminée, comme de l'Aurignacien. Et on ne découvre pas suffisamment d'éléments caractéristiques pour la couche supérieure dans laquelle étaient enterrés les squelettes. Et tout le monde imagine que c'est à la fin de l'Aurignacien que ces squelettes ont été enterrés. Ça veut dire que des gens qui auraient vécu il y a environ une trentaine de milliers d'années. Et puis le temps passe, car l'abri a été complètement vidé et on n'a plus aucun repère pour pouvoir dater. Bien sûr, depuis quelques décennies, on a repris toutes ces études et on était intrigués parce que vraiment, la couche de terre dans laquelle les squelettes avaient été trouvées était vraiment tout à fait en haut de l'empilement, du gisement, sous le rocher. Et il y avait des coquillages à côté de ces squelettes. Bref, des gens se posent des questions, en particulier Gilles et moi, et surtout le jour où nous allons à Toulouse et où nous voyons dans une vitrine des objets qui viennent de cette sépulture, en particulier des coquillages et des outils de silex. En effet, deux de ces outils de silex sont caractéristiques du début de la civilisation suivante qui s'appelle le Gravettien. Il y a une fléchette de Bayac et il y a une lamelle qu'on appelle une pointe de la gravette.
Il faut dire, et ça vous avez passé un épisode, c'est qu'entre-temps, c'est qu'avant cela, il y avait eu une datation par le carbone 14. À la merveille que le carbone 14, qui avait donné un résultat, disons, entre 28 et 30 000 ans, c'est-à-dire qu'en réalité, on ne savait pas, grâce au carbone 14, qui avait été étudié sur les coquillages, si c'était de l'Aurignacien ou si c'était du Gravettien.
Voilà. Donc, si vous voulez bien, nous reviendrons tout à l'heure sur cette datation plus précise. En attendant, nous allons écouter une chanson.
Voilà 3 millions d'années que je dormais dans la tourbe, quand un méchant coup de pioche me trancha net le col et me fit effectuer une gracieuse courbe, à la fin de laquelle je plongeais dans le formol. D'abord on a voulu me consolider la face, on se mit à me brosser mâchoire et temporale, suivi d'un shampoing au bichromate de potasse, puis on noua une faveur autour de mon pariétal. Du jour au lendemain, je devins une vedette, journaux, télévision, y en avait que pour moi. Tant et si bien du reste que les autres squelettes, se jugeant délaissés, me battaient un peu froid. Enfin les scientifiques, suivant coutume Zeus, voulant me baptiser de par un nom latin, m'ont appelé pité qu'Anthropus Erectus. Erectus, ça me va bien, moi qui étais chaud la fin. Et ces messieurs savants, à bottines et pince-nez, sur le vu d'un pitos ou d'une prémolaire, confèrent que je possédais de sacrées facultés qui me différenciaient des autres mammifères. Ils ont dit que j'étais un virtuose du gourdin, qui a semé, disons, au roc et bonne fortune, que j'étais drôlement doué pour les petits dessins de Vénus Callipyge, au téton comme la lune. Ils ont dit que je vivais jadis dans une grotte. Ils ont dit tellement de choses, tellement de trucs curieux. J'étais couvert de poils et que j'avais pas de culotte.
Alors que j'habitais un pavillon de banlieue, j'étais comme tout le monde, pétri de bonnes manières. Tous les dimanches matins, je jouais au tiercé. Je portais des cols durs et des bandages hernières. C'était avant la guerre, avant que tout ait sauté. C'était, voilà maintenant, bien 3 millions d'années. Vous n'avez rien à craindre, y a plus de retombées.
Eh bien, fort heureusement, rien n'a sauté. Nous nous retrouvons avec nos amis pour parler de Cro-Magnon. Et nous avions prévu de parler de façon plus détaillée des problèmes de datation.
Alors, la datation, en général, aujourd'hui, permet de mettre en jeu toutes les techniques disponibles pour aboutir à la meilleure datation. C'est-à-dire que, en ce qui concerne Cro-Magnon, c'est une fouille ancienne et on n'a aucun moyen de datation directe des ossements parce qu'il ne reste pas de collagène dans les os. Ils ont été dégradés, si vous voulez, par les années qui sont passées. Mais avant de s'intéresser à des moyens physiques de datation ou chimiques de datation, on commence d'abord par faire une chose. Quand on est face à un squelette, on regarde son aspect anatomique. Et les anatomistes sont capables de distinguer des os, des squelettes qui correspondent aux squelettes modernes ou des squelettes plus anciens. Donc la première démarche qui a été faite, c'est de bien regarder les os et de s'apercevoir que les os de Cro-Magnon étaient strictement identiques aux nôtres. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette découverte au milieu du 19e siècle a été tellement célèbre, c'est que elle était certainement préhistorique, car les os étaient enfouis sous 10 mètres d'épaisseur de sédiments dans un talus, et qu'ils étaient strictement identiques à un squelette moderne. Donc c'était bien des hommes préhistoriques modernes. Aujourd'hui, ces hommes, on les appelle des Homo sapiens. Mais on voudrait bien savoir avec précision à quelle culture, à quelle civilisation ça appartenait. Et donc, en reprenant les travaux de Louis Larté, donc on avait des hésitations entre la première époque du temps des Cro-Magnons qu'on appelle le Paléolithique supérieur, cette civilisation s'appelant l'Aurignacien. On avait trouvé beaucoup de restes de campements d'Aurignaciens en dessous de la sépulture. Mais la sépulture, elle était juste au-dessus de cette accumulation de campements aurignaciens, juste sous le rocher. Et là, on avait une hésitation, parce qu'après tout, ça pouvait peut-être être des individus plus récents qu'on aurait mis dans ce petit trou. Et à côté des squelettes, il y avait des outils, qui ont donc été conservés, quelques-uns ont été conservés, et que nous avons eu la chance d'observer au Muséum de Toulouse. Il y a un certain nombre de décennies, Gilles et moi, une fléchette de Bayac, une pointe de la gravette, des outils caractéristiques du début du gravettien, c'est-à-dire la deuxième des civilisations du Paléolithique supérieur. Et puis, des personnes se sont dit, mais après tout, il y a moyen de faire une datation sur les coquillages qui formaient le collier de ces gens au moment où ils étaient enterrés. Et une datation a été effectuée. Et là, formidable, on a trouvé une date très précise par le carbone 14, 27 000 ans. 27 000 ans, c'est une date qui est juste limite entre l'Aurignacien et le Gravettien. Alors aujourd'hui, on ne dit plus 27 000 ans, car ça c'est la méthode du carbone 14 qui a été réétalonnée, et maintenant on parle de date calibrée, et en date calibrée, ça fait 30 000 ans. Donc voilà nos squelettes qui ont 30 000 ans. Et ça a été confirmé par l'étude faite par d'autres chercheurs qui travaillent à l'abri Pateau et qui ont été intrigués parce que les éléments de parure de l'abri Pateau étaient identiques à certains éléments de parure de Cro-Magnon. Donc voilà une preuve supplémentaire de confirmation. Les objets de parure provenaient du gravettien ancien. Donc voilà, nos squelettes de Cro-Magnon datent bien du gravettien ancien et non pas de l'aurignacien comme on l'a cru trop souvent. C'est une aventure tout à fait significative de l'attitude qu'il faut avoir. Il faut jamais se laisser aller à une seule preuve de datation. En archéologie, il faut essayer d'accumuler le plus possible de preuves de datation.
Voilà, c'est une réponse effectivement très précise et qui nous montre que l'archéologie est étayée par des arguments qui viennent se corroborer les uns les autres.
Une toute petite remarque qui fera plaisir aux Périgourdins que nous sommes, c'est que Brigitte a dit l'importance qu'avait cette fléchette de Bayac qui nous a apporté la date vraiment de la sépulture, mais les Périgourdins, notamment les Bergeracois, savent très bien que Bayac, c'est la commune dans laquelle se trouve le gisement de la Gravette.
Très bien. Maintenant, nous allons essayer de voir quelle est la parenté de l'homme de Cro-Magnon avec nous-mêmes, avec d'autres ancêtres plus éloignés. Et Gilles, pouvez-vous nous en dire plus sur la place de cet homme dit de Cro-Magnon dans la chaîne des hominidés?
Alors, je vais vous prendre un exemple pour simplifier, c'est-à-dire que nous avons eu l'honneur d'être conseillers scientifiques pour l'aménagement de la grotte de Villars. Et j'ai pu enfin mettre ce que je pensais au sujet de l'aspect de Cro-Magnon. Et sur un des panneaux qui se trouve dans le beau jardin préhistorique qui est l'ouverture de cette grotte, eh bien, j'ai mis enfin ce que je voulais mettre depuis longtemps, c'est-à-dire le véritable portrait de Cro-Magnon, de Cro-Magnon et de Cro-Magnonne. Et on me l'a installé avec quatre pointes ou quatre vis. Et ce véritable portrait de Cro-Magnon, c'est un miroir. Parce qu'au fond, l'homme de Cro-Magnon, c'est nous-mêmes. Alors vous me direz, il y a quelques petites nuances, puisque l'évolution, nous sommes toujours dans l'évolution et nous continuons à évoluer. Alors quelles sont les nuances? Eh bien, c'est au nombre de trois. C'est qu'au premier moment, nous avons le crâne un tout petit peu plus rond que celui des Cro-Magnons, mais c'est quelques millimètres. Deuxièmement, notre mâchoire, notre mandibule, comme disent les spécialistes, continue à aller de l'avant, c'est-à-dire que nous avons un menton un tout petit peu plus important, mais malgré tout, on a beaucoup d'ennuis, parce que nous avons de plus en plus d'ennuis pour loger nos dents de sagesse, et nos enfants ont de plus en plus besoin d'aller voir l'orthodontiste, parce que les dents se chevauchent. Cela, ce sont des témoins évidents d'évolution. Puis la troisième chose, c'est que lui, Cro-Magnon, était fossile, nous ne le sommes pas, mais rassurez-vous, on a une chance pour que ça arrive. Mais c'est ce qui se passe actuellement. Mais d'où venons-nous? Eh bien, nous venons bien sûr d'Afrique, tous plus ou moins d'Afrique, et nous le savons d'abord parce que dans les années 80 sont arrivés des biologistes, et des biologistes qui étaient arrivés à reconstituer à l'envers notre arbre généalogique. Eux, ils n'avaient jamais touché de squelette, mais ils sont arrivés comme ça, l'air très savant, en nous disant, mais voilà, les ancêtres des Cro-Magnons, les proto-Cro-Magnons, pourrait-on dire, eh bien, ils remontent, par nos calculs, à 300 000 ans, et de préférence en Afrique. Alors, les spécialistes les ont regardés en disant, mais c'est pas possible, etc. Et en réalité, il a été découvert des hommes qui remontaient à 200 000 ans, plus récemment à 300 000 ans. Et on le savait également par l'aspect de l'ADN.
Donc, ce qui importe, c'est non seulement le portrait, mais aussi le profil génétique, en quelque sorte.
Alors, le profil génétique, c'est justement sur ce profil génétique, en tenant compte des mutations, que les biologistes nous avaient défini, en particulier l'ADN mitochondrial, c'est-à-dire l'ADN transmis par les femmes, que notre grand-mère, notre grand-grand-grand-grand-mère, est remontée à 300 000 ans. Et elle a été trouvée, enfin des gens de cette époque-là ont été trouvés, d'abord en Éthiopie, puis tout récemment au Maroc.
Et donc, Néandertal, Cro-Magnon, est-ce que ce sont des espèces différentes ou est-ce que c'est une même chaîne?
Alors, on a d'abord pensé que c'est une espèce strictement différente, et puis récemment, ça fait maintenant presque une dizaine d'années, on s'est rendu compte que nous portions tous en nous quelques gènes néandertaliens, sauf les Africains, c'est-à-dire qu'il y avait eu des relations sexuelles entre, d'une part, les Homo sapiens qui étaient en Europe et les derniers néandertaliens. Bref, il y a en chacun d'entre nous un peu de Néandertal, sauf chez les Africains.
Donc un grand métissage.
Un grand métissage, c'est le mot important à prononcer, c'est vrai.
On vient de parler du portrait et du profil génétique.
Et pour parler de ce métissage, eh bien, nous avons en nous, puisque les proto-cro-magnons étaient éthiopiens et les autres marocains, eh bien, nous avons en nous pas mal de choses qui sont sinon musulmanes, du moins marocaines, et sinon juives, du moins israéliennes.
Voilà qui va à l'encontre de certaines idées par trop répandues de nos jours. On vient d'évoquer le portrait de Cro-Magnon, on vient d'évoquer son profil génétique et sa photo alors, puisqu'il y a sa photo aux Aisies, ou du moins sa statue.
Ah oui, voilà. Alors là, ça, c'est une vieille histoire. Si vous tapez sur Internet, monsieur Google, si vous tapez, chose extraordinaire, statue les Aisies, tout le monde vous répond Cro-Magnon, 95 fois sur 100. En réalité, l'homme qui est sur la falaise des Aisies n'est pas l'homme de Cro-Magnon, c'est, simplifiant, un homme de Néandertal, vu par un homme qui était un sculpteur, qui était de l'Odève, là-bas, du côté de Montpellier, et c'est même, comme sur le Port-Salut, écrit dessus. Au mot Néandertal insiste. En fait, c'est même un Néandertal qui n'a pas été gâté, c'est l'homme naissant de la matière, mais surtout, ce n'est pas l'homme de Cro-Magnon. Quand vous avez un touriste qui regarde l'homme de Cro-Magnon, mais qui regarde cet homme de Dardé, eh bien, le Cro-Magnon, c'est le touriste. Quant à la statue, c'est Néandertal.
Voilà. Eh bien, je vous remercie vivement tous les deux d'avoir accepté de participer à cet entretien qui nous éclaire un peu plus sur ce qu'ont été nos ancêtres et sur ce qu'a été aussi l'évolution de l'espèce humaine. J'espère que cela aura aussi beaucoup intéressé nos auditeurs et je vous dis à une prochaine émission. À bientôt.